Franck Ferrand nous parle de son nouveau livre.
Vous aimez Au cœur de l'histoire sur Europe 1, alors ce message est pour vous. Parmi les grands récits de l'émission, j'ai choisi mes préférés et j'en ai fait un livre. Des pharaons aux cosmonautes, voici 30 aventures inoubliables des personnages hors du commun.
Avec en cadeau un CD de 4 histoires inédites. Au cœur de l'histoire, aux éditions Flammarion.
Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Attention, un Versailles peut en cacher un autre. C'est en substance le message que Franck Ferrand a l'intention de délivrer aujourd'hui sur Europe 1. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Vous connaissez ma vieille prédilection pour le château de Versailles et son histoire. J'y ai déjà consacré quelques ouvrages et pas mal d'émissions. Mais cet après-midi, comme vous l'avez laissé entendre Julia, ce n'est pas l'immense palais que nous connaissons, que j'aimerais évoquer. C'est un Versailles disparu, celui du premier château de Louis XIV entre 1661 et 1670, autant dire une sorte de paradis perdu.
Et vous avez invité des amis à vous rejoindre.
Oui, c'est vrai qu'il y a un petit côté bande de copains. Dans la distribution d'aujourd'hui, Jean-Michel Rioux est venu avec un roman volumineux, Un jour je serai roi, ça vient de sortir, et Adrien Goetz avec son château-livre, quelques-unes des plus belles pages jamais écrites sur Versailles. Allez, fouette cochée, nous sommes attendus chez la reine.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Le nom de Versailles évoque en premier lieu l'image de ces façades imposantes, vous savez, ces façades à l'italienne qui se déploient presque indéfiniment le long de rigoureux jardins à la française. Ce Versailles-là, voulu par un Louis XIV déjà vieillissant, ce Versailles bâti par Jules Ardouin Mansart, respecté dans ses grandes lignes par Louis XV et Louis XVI, miraculeusement épargné par la Révolution et l'Empire, et puis, par la suite, entretenu, restauré, mille et mille fois vanté depuis bientôt deux siècles. Ce Versailles, qui est un des grands fleurons du patrimoine national, est bien sûr celui auquel on pense tout de suite. Je ne parle pas, quand je parle de patrimoine national, pas seulement d'un patrimoine matériel et monumental, mais aussi d'un patrimoine spirituel. Qu'on le veuille ou non, cette image de Versailles fait partie du paysage, si j'ose dire, du paysage de la plupart des Français en tout cas. Ce n'est pas, vous l'avez compris, celui dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Car avant cet immense Versailles, grandiose, il en a existé un autre, beaucoup plus modeste dans ses dimensions, beaucoup plus fantaisiste dans ses ornements, un Versailles édifié pour le jeune Louis XIV, destiné à ses plaisirs, à ses fêtes, à ses promenades, un Versailles où ne siégeait ni la cour ni le gouvernement, seulement un jeune monarque encore tout imprégné de l'esprit baroque et des influences italiennes de sa jeunesse. Ce Versailles-là, précieux, magique, d'autant plus précieux, d'autant plus magique qu'il a entièrement disparu. On peut en retrouver la physionomie sur une peinture détaillée, minutieuse, offrant une vue d'ensemble sur le château tel qu'il était en 1668. À cette date, plus de 7 années de travaux ont déjà modifié en profondeur l'ancien relais de chasse de Louis XIII pour en faire une demeure somptueuse, ça c'est incontestable, mais encore de taille humaine. C'est un bonheur de scruter attentivement cette belle toile de Pierre Patel, qui aujourd'hui est exposée dans les salles 17e du musée de Versailles. On y voit de l'or au plomb des toitures, vous allez me dire que l'or y est revenu depuis quelque temps. On y voit des bustes de marbre qui ornent les façades briques et pierres. On voit un péristyle, des grilles, des ferronneries très ouvragées, des rampes en hémicycle avec des obélisques. Et puis là-bas, dans le lointain déjà bleuté, des parterres tout chantournés, tout semés d'ifs taillé. Aucun doute possible, le château qu'a peint, ce castel qu'a immortalisé Pierre Patel est une œuvre aboutie. C'est un état idéal fixé pour l'éternité et quand on l'envisage dans sa plénitude, on se dit qu'aux yeux des contemporains, ce Versailles-là, ce Versailles de jeunesse et d'invention, a dû paraître terminé, parfait, intangible pour ceux qui le visitaient à l'époque. Je vous ai dit que nous sommes en 1668, année de la victoire pour la France dans la guerre de dévolution, année faste s'il en fut pour Louis XIV. Et bien justement, à la fin de cet été 1668, 4 amis ont décidé de profiter des derniers beaux jours pour aller visiter cette résidence que Colbert, le grand Colbert, qui depuis 4 ans est surintendant des bâtiments, cette résidence royale que Colbert voudrait croire achevée. Je dis 4 amis, ce n'est pas n'importe qui. J'ai nommé Jean de La Fontaine, notre Jean de La Fontaine si joliment évoqué l'autre jour à ce micro par Jean-Claude Drouot. C'est lui qui racontera la promenade et qui permettra donc à la postérité d'en conserver le souvenir. Et puis Racine, s'il vous plaît, Boileau et le poète Chapelle. Versailles, quand ils y arrivent, a des airs de lendemain de fête. Il faut savoir que ces jardins viennent de servir de cadre dans la nuit du 18 juillet au grand divertissement royal célébrant cette fameuse paix d'Aix-la-Chapelle. Les 4 écrivains sont arrivés de bon matin, alors ils veulent tout voir, bien entendu. Ils se font montrer la ménagerie, l'orangerie, les chefs-d'œuvre de Levaux. Ils visitent ensuite les appartements, ils découvrent la célèbre grotte de Tétis et puis ils s'aventurent au sein des perspectives dont le nôtre a posé les grandes lignes. Tout cela, pense-t-il, a été construit pour durer. Oh, tout ça résistera au temps. Ils se trompent, et même lourdement, car seulement quelques jours plus tard, cette harmonie d'architecture et de verdure va se hérisser de grues, de palans, de machines, d'échafaudages. Des milliers d'ouvriers vont venir investir ces lieux avec l'intention de doubler, de tripler, de quadrupler un jour la surface des bâtiments. Ce seront l'ajout du côté des jardins de ce qu'on appelle l'enveloppe neuve en 1669 et puis l'édification d'ailes gigantesques au midi d'abord et puis au nord, pour ne rien dire des ailes des ministres. Tout ça va bouleverser, va transformer de fond en comble le premier Versailles et le faire pratiquement disparaître. Tout ça, nos poètes ne peuvent pas le savoir. Racine et ses compagnons ignorent au moment de leur promenade que ce joyau baroque, né 7 ans plus tôt, en 1661, est sur le point de sombrer à jamais.
Sur Europe 1 du prologue des Folies de Cardenio. Restez avec nous, Franck Ferrand vous emmène découvrir aujourd'hui un Versailles différent de celui que vous connaissez.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Avec un récit qui s'intéresse aujourd'hui au premier Versailles, celui de Louis XIV, aujourd'hui disparu, Franck.
La première décision de Louis XIV à propos de Versailles remonte au mois de septembre 1660. Oh, c'est tout simple, ça consiste pour le jeune roi, il a 22 ans à ce moment-là, ça consiste à nommer son valet de chambre au poste d'intendant de ce qui est encore une dépendance du château de Saint-Germain. Pour l'instant, Versailles n'est pas encore une demeure royale à part entière. Dans la foulée, Louis se lance dans une politique d'acquisition foncière. Son but, c'est de constituer ce qui un jour va devenir le fameux Grand Parc de Versailles. Mais la priorité du roi pour le moment, c'est la restauration des intérieurs. C'est au peintre et décorateur Charles Erard qu'est confié le chantier au début de 1661. Oh, la mission est toute simple, rafraîchir des décors qui ornaient autrefois les appartements de Louis XIII. Ça faisait 20 ans qu'on n'habitait plus à Versailles. Quand je dis à Versailles, encore une fois, pour ceux qui arriveraient en cours, c'est une toute petite maison, c'était un relais de chasse pour Louis XIII. Vous avez bien noté l'année 1661. C'est sans aucun doute la plus importante du règne de Louis XIV. Le jeune souverain vient de se marier, bientôt il aura un fils qu'on appellera le grand dauphin, ça vous dit quelque chose. Surtout, au printemps 1661, est mort le cardinal de Mazarin, le parrain du roi qui, jusque-là, était le véritable maître du royaume. Alors Louis XIV est encore jeune, c'est vrai, il a 23 ans à peine, mais il profite de la mort de Mazarin pour prendre lui-même les rênes de l'État. C'est l'acte le plus important peut-être de tout son règne. Et il va d'emblée prendre une mesure très symbolique, c'est l'arrestation, vous savez, d'abord la mise en accusation, l'arrestation en septembre à Nantes de Nicolas Fouquet, foudroyante disgrâce de Fouquet, dont la première conséquence est l'interruption brutale du grand chantier de Vaux, que nous appelons nous Vaux le Vicomte, un chantier qui avait été lancé 8 ans plus tôt par le surintendant des finances. Du jour au lendemain, c'est le plus grand projet architectural du demi-siècle qui se trouve ajourné. Le pinceau des décorateurs, le ciseau des sculpteurs, le cordeau des jardiniers, tout ça reste en suspens. On attend que le roi décide de nouveaux lieux où l'on pourra se remettre au travail. Alors à deux reprises, en juillet 59, 1659, et puis au moment de la fête légendaire d'août 1661, le roi était venu à Vaux. Il avait visité longuement les jardins de Lenôtre, il avait admiré les édifices de Levaux, les décors de Lebrun. Et dès que Fouquet est déchu, c'est cette même triade, Lenôtre, Levaux, Lebrun, à laquelle il va faire appel, Louis XIV, à l'intention de récupérer ces gens-là, en même temps d'ailleurs que les meilleurs fontainiers, menuisiers et doreurs de l'époque. Ce n'est que justice, vous me direz. Après tout, ces excellents maîtres font partie du service des bâtiments du roi. Désormais, l'équipe de Vaux va pouvoir travailler à la seule gloire du souverain. Alors on travaille au Louvre, évidemment, aux Tuileries, à Fontainebleau, à Saint-Germain. Tout ça, ce sont les chantiers ouverts par Jean-Baptiste Colbert, qui, il ne faudrait pas l'oublier, a été l'artisan de la chute de Fouquet. Louis XIV, lui, de son côté, s'intéresse plutôt à son cher petit Versailles, dont personne ne se préoccupe à l'époque. Et sur place, près du hameau de Versailles, dans le petit relais de chasse de Louis XIII, tandis que le peintre Érard poursuit ses embellissements intérieurs, le premier architecte, Louis Levaux, se voit chargé de décorer les façades et les toitures existantes. Sur ces premiers bâtiments royaux de Versailles, il existe un très bel ouvrage que je vous conseille, établi par un des meilleurs connaisseurs, pour ne pas dire par le meilleur, de l'architecture versaillaise. C'est Jean-Claude Le Guillou. Son livre s'intitule « Versailles avant Versailles ». Il est publié chez Perrin et c'est la Bible. Monsieur Le Guillou nous apprend notamment qu'à la demande de Louis XIV, Louis Levaux commence par agrandir les fenêtres du bel étage, qu'il ceinture l'édifice d'un balcon de fer forgé vert et or, qu'il enrichit les toitures d'ornements dorés, qu'il atténue l'aspect un petit peu rustique et peu attrayant des fossés. Levaux abat aussi de part et d'autre de l'avant-cour les anciens bâtiments d'écurie et d'office. Il les rebâtira sur un plan plus ample, plus noble, de sorte que dès juillet 1662, le roi va pouvoir inaugurer sa nouvelle demeure en compagnie de sa belle-sœur Henriette d'Angleterre. Vous allez me dire pourquoi est-ce qu'il a choisi Henriette d'Angleterre? Parce que il a quelques visées sur l'une de ses dames d'honneur, une certaine Louise de la Vallière. L'automne suivant sera prétexte à multiplier les chasses à Versailles. On y vient pour faire la fête, on y vient pour des divertissements. Et au passage de l'année nouvelle, les appartements reçoivent un très riche mobilier dont Louis XIV fera bientôt les honneurs à Mademoiselle de la Vallière, certes, mais aussi à sa femme, la reine Marie-Thérèse.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck qui met à l'honneur aujourd'hui sur Europe 1, Versailles avant Versailles.
Eh oui, voilà, exactement. C'est d'ailleurs le titre, je citais ce livre de Jean-Claude Le Guillou chez Perrin, Versailles avant Versailles. Lui s'intéresse surtout à la période de Louis XIII. Moi, le Versailles qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le premier Versailles de Louis XIV, vous avez bien compris. Entre le moment où le roi reprend les travaux et le moment où il décide de transformer son gentil château d'agrément en une sorte d'immense palais pour la cour et pour le gouvernement. À l'été 1662, on voit un deuxième membre de la triade de Vaux, des artistes de Fouquet, arrivés à Versailles. On avait déjà Louis Levaux, voilà André Lenôtre. Le jardinier confère aux extérieurs hérités de Louis XIII toute une espèce d'ampleur. Il prolonge le parterre à l'ouest par une vaste terrasse en demi-lune. Cette terrasse, c'est ce qui deviendra plus tard la descente de la Tonne. Vous savez, c'est le cœur même de la perspective de Versailles. Et puis au sud, il imagine avec Louis Levaux un parterre supporté par une orangerie monumentale qui ouvre sur un jardin des oranges, qui lui-même sera prolongé par un jardin fruitier. À l'opposé, là-bas au nord, il fait un projet d'aller en cascatelle. Ce sera plus tard le dessin du parterre du nord. Deux premiers bosquets sont également aménagés, de part et d'autre de l'allée centrale. Mais l'intervention de Lenôtre va bientôt revêtir une importance tout autre. Il ne faut pas oublier que ce bonhomme, comme on l'appelait, est urbaniste autant qu'il est paysagiste. Et il va, sans grande peine, convaincre le jeune roi de la nécessité d'élargir le plan d'ensemble du domaine et de faire de ce château le cœur d'une vaste composition rayonnante qui se déploiera désormais vers le Levant selon trois larges avenues en pas de doigt. Ce seront les grandes avenues qui constituent la ville de Versailles. Et puis du côté du couchant, vous avez trois vastes perspectives. Évidemment, ça c'est tout le côté verdure, ce sont les sublimes jardins. Ce qui inquiète Colbert dans tout ça, ce sont les coûts induits, vous imaginez bien. Colbert est renseigné par Charles Perrault, l'écrivain qui à l'époque est contrôleur des bâtiments, mais aussi par le sieur Petit qu'il a dépêché sur place. Et il voit à regret s'enfler cette espèce de passion subite de Louis XIV pour ce site ingrat dont il ne parvient pas à déceler toute la grandeur. Selon Colbert, le roi serait en vérité la dupe du couple infernal Levaux-Le Nôtre. On a là-dessus une lettre que Pierre de Nolhac, le grand conservateur de Versailles, a pu dater, lettre du 28 septembre 1663, dans laquelle Colbert s'en prend aux anciens collaborateurs de Fouquet. « Votre Majesté, écrit-il à Louis XIV, observera qu'elle est entre les mains de deux hommes qui ne la connaissent presque qu'à Versailles, c'est-à-dire dans le plaisir et le divertissement, que la portée de leurs esprits suivant leurs conditions, divers intérêts particuliers, la pensée qu'ils ont de faire bien leur cours, feront qu'ils traîneront votre majesté de dessin en dessin pour rendre ses ouvrages immortels si elle n'est en garde contre eux. » On peut dire que dans cette affaire, Colbert se montre à la fois très clairvoyant et en même temps très aveugle, car il n'a pas vu la grandeur du dessein du roi. En attendant, les lecteurs de la Muse historique et de la Gazette de France s'habituent à voir le roi, enfin à entendre dire que le roi est en séjour à Versailles. C'est là que Molière va bientôt faire représenter son célèbre Impromptu de Versailles. Et en 1664, ont lieu les grandes réjouissances des plaisirs de l'île enchantée, qui vont évidemment faire plus pour la réputation de Versailles que toutes les constructions du monde. Dans tous les premiers travaux de Louis XIV à Versailles, il faut bien noter l'absence d'un grand personnage. C'est le troisième membre de la triade, c'est Charles Lebrun. Le peintre du roi, le grand décorateur, l'inspirateur du grand siècle, ne viendra que plus tard. Seulement, il se rattrapera évidemment. Un jour, il fera de Versailles sa chose, son chef-d'œuvre, son manifeste. Mais le Versailles dont je parle là sera déjà un autre Versailles. La plus précieuse description du Versailles de 1668, et quand je dis précieuse, le mot est choisi, on la trouve dans la fameuse promenade à Versailles où Mademoiselle de Scudéry, accompagnée de Glycère et de Télamon, fait à la belle étrangère, sont des personnages, vous voyez qu'on est dans toute l'écriture précieuse, elle fait à ses compagnons de voyage les honneurs du petit château. Divers rangs de bustes ornent la façade du bâtiment et les deux ailes aussi, écrit-elle, dont un magnifique corridor, un corridor, c'est ce qu'on appellerait nous un balcon, à balustre doré fait la communication et règne ensuite tout alentour du palais. Comme le soleil parut un moment fort à couvert, il sembla à la belle étrangère que ce n'était que pour faire briller davantage tout l'or dont le comble du palais est orné et pour lui faire paraître plus agréable le ciel ouvert qu'on voit à travers le vestibule et la belle vue qui s'étend aussi loin que les regards peuvent aller. Madeleine de Scudéry figure évidemment en bonne place dans un charmant ouvrage qu'Adrien Goetz vient de publier aux éditions d'Arlis, les éditions versaillaises par excellence, en coédition avec l'établissement public de Versailles. Adrien Goetz, mais aussi Jean-Michel Le Rioux sont avec nous. Nous les retrouvons dans un instant.
Sur Europe 1 de la marche des mousquetaires de Jean-Baptiste Lully pour accueillir vos invités dignement, Franck, sur Europe 1.
Royalement, disons-le. Madeleine de Scudéry est un des nombreux auteurs dont Adrien Goetz a été chercher la quintessence. Il est allé chercher dans des œuvres les plus variées jusqu'à nos jours des textes sur Versailles. Et le moins qu'on puisse dire est que c'est une promenade absolument délicieuse qu'il nous offre. Alors, dans le recueil, le texte versaillais de Madeleine de Scudéry porte sur la grotte très magnifique, qu'on appelait la grotte de Tétis. C'était une fabrique que Louis XIV avait fait faire et qui abritait notamment le fabuleux ensemble de Coisevaux représentant les bains d'Apollon, qui sont aujourd'hui beaucoup plus loin, exilés dans le parc depuis Marie-Antoinette. Bonjour Adrien Goetz.
Bonjour Franck Ferrand.
Merci d'être des nôtres. Alors, Madeleine de Scudéry aura été finalement une visiteuse tout à fait privilégiée de ce premier Versailles dont je viens de parler.
Et elle est aussi une romancière à succès. Elle est morte en 1701, mais elle a eu les plus grands succès de librairie de son temps.
Oui, oui,
et
là.
Sa promenade de Versailles est un enchantement parce qu'elle nous place immédiatement dans le ton du conte et d'une visite qui paraît presque un rêve. Et elle fait partie de ces premiers écrivains qui ont été inspirés tout de suite par Versailles.
Cette dimension onirique, on la retrouve chez La Fontaine également.
Bien sûr, vous l'avez cité.
On se demande si La Fontaine, Madeleine de Scudéry et quelques autres sont inspiré par Versailles, ou s'il prête, on va dire, à Versailles cette dimension onirique, ou si les lieux eux-mêmes étaient à ce point enchanteurs. On peut plus le savoir.
Ou s'ils sentent que le roi attend d'eux, les grands écrivains de son règne, d'avoir déjà des textes qui évoquent les beautés de Versailles. Parce qu'à la même époque, on a des témoignages d'écrivains qui sont déjà contre Versailles. Quand on regarde, alors les mémoires de Saint-Simon ont été publiées bien plus tard. Mais le témoignage qu'il nous donne reflète ce qu'il pouvait entendre au début, et c'est le plus ingrat de tous les lieux. C'est un Versailles qui déplaît. Madame de Sévigné est intéressante parce qu'elle était proche de Fouquet, elle était enthousiaste de Vaux et elle se rallie en quelque sorte à Versailles.
Et elle finit trouve dans Versailles ses lettres, sublime.
Voilà, elle
mais
finit
le
par trouver Versailles sublime.
Le Versailles dont elle nous parle, c'est bien ce tout premier château
parliez,
de Louis XIV.
Exactement.
Ce n'est pas le Versailles que nous connaissons, ce n'est pas ce que plus tard Colbert appellera un monstre en bâtiment. Pour l'instant, on est encore dans cet édifice baroque, dans cet écrin de verdure absolument extraordinaire, dans cette sorte de machine à rêver que Louis XIV a voulu pour ses plaisirs.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et nous sommes précisément au cœur de l'histoire du tout premier Versailles avec vos invités Franck, l'écrivain Jean-Michel Rioux, également l'historien de l'art et aussi écrivain Adrien Goetz.
Adrien Goetz, auteur d'une anthologie de textes sur Versailles, sous-titré de Molière à Éric Orsenna, et c'est vrai qu'on trouve dans cette anthologie des noms tout à fait singuliers, on va y venir dans un instant, on trouve Karl Marx, on trouve Louise Michel,
oui.
Pas tellement les personnages qu'on aurait attendus sur Versailles. Zola, oui, parce qu'il a été reporter, il faut pas l'oublier au
il
moment de...
Il décrit un Versailles un peu à l'abandon,
ah,
un
oui,
peu hors
oui.
du temps, hors des bons circuits, et puis on va jusqu'à aujourd'hui.
Oui,
jusqu'à
Marc Lambron, on lira
d'aujourd'hui.
Tout à l'heure, ça vaut
oui.
la peine. Et puis, un jour, je serai roi, un gros roman, comme Jean-Michel Rioux sait les concocter pour notre plaisir, j'allais dire pour nos vacances, mais il n'y a pas forcément besoin d'être en vacances. On a aussi de longs week-ends et puis
exactement.
Des moments où on a envie de se plonger dans une belle aventure. Et en l'occurrence, on va suivre les traces d'un certain Toussaint de la Forge. Il faut que vous nous expliquiez qui c'est ce gamin-là, Jean-Michel Rioux.
Oui, alors Toussaint de la Forge, eh bien, c'est le, disons que c'est l'autre côté de la pièce de Versailles. D'un côté, il y a Louis XIV qui naît en 1638, et de l'autre côté, il y a Toussaint de la Forge qui naît le même jour. Mais l'un naît à Saint-Germain, en Touraine, et l'autre naît dans une cave.
Ah oui.
Alors, en fait, je fais un parallèle parce que sur le plan romanesque, c'est assez excitant d'imaginer ces deux vies. L'un, Louis XIV, bon, en fait, comme vous le rappeliez très justement, décide très tôt qu'il aura un immense projet personnel qui sera Versailles. Il décide de construire ex nihilo, pratiquement.
Oui, en tout cas, à partir de la carcasse de la maison
oui.
de son père. Ce qui est quand même intéressant, c'est qu'il n'a jamais voulu la détruire.
Non, absolument.
Le veau ne rêvait que d'une chose, oui. c'est qu'on rase ce truc-là oui. et qu'on construise à la place un nouveau château. Non,
oui.
Louis XIV dit... on ne touchera pas à l'ancienne oui. maison de mon père. Et donc, on va avoir cette chose un peu étrange, qui d'ailleurs, aujourd'hui encore, pour les visiteurs, est une chose étrange, ce vieux château Louis XIII entouré d'un immense château moderne Louis XIV.
Absolument. Le château Louis XIV se trouve vers l'Orient, vers le soleil qui se couche. Au fond, finalement, il y a cette idée un peu psychanalytique du père qui est enfermé au fin fond dans l'écrin de Versailles.
Exactement.
Et Louis XIV qui, lui, va vers le soleil, c'est-à-dire la course du soleil, qui est plus donc tournée vers les jardins.
Ce qui est magnifique dans votre roman, c'est qu'on y découvre la façon dont travaillaient les ouvriers du temps de Louis XIV. Quand je dis les ouvriers, les maîtres, devrais-je dire. Vous savez, il y a une chose, les auditeurs fidèles d'Europe 1 sont habitués à m'entendre dire ça, mais il y a une chose assez extraordinaire, c'est qu'on connaît au XVIIe siècle une sorte de perfection. Il y a une maîtrise des savoir-faire et des métiers qui atteint un tel niveau que lorsqu'on regarde un bloc de pierre taillé au milieu du XVIIe siècle, trois siècles et demi plus tard, on est encore ému, on a l'impression qu'il palpite parce qu'il est habité d'un savoir-faire absolument extraordinaire. Il n'existait, dites-vous, pour parler de tout ce milieu des artisans qui fabriquent le château, il n'existait pas d'autre mot que celui-ci, famille, pour définir le fonctionnement de cette société solidaire aux règles strictes, arbitrant les conflits et réglant ses affaires. La solidité d'un tel édifice se comparait à celle d'un temple aux colonnes inusables. Tout y était discuté, contrat, prix, méthode, savoir, tout s'y débattaient. De la sorte, les maîtres des bâtiments du roi, une centaine d'hommes, gardaient la main sur les travaux commandés par la surintendance du roi. Devait-on craindre les combinazioni et autres effets pervers d'un système aux apparences opaques et tentaculaires ? Tous ses membres s'en défendaient. Leur chapelle réunissait d'excellents talents qui, guidés par leurs aînés et au prix de nombreux efforts, parvenaient au sommet de la pyramide et livraient le meilleur d'eux-mêmes. Versailles, où la quintessence d'une forme de perfection, en quelque sorte.
Oui, absolument. Et c'est le grand mérite, c'est un des grands mérites de Louis XIV, d'avoir su mettre à l'honneur le talent de ses hommes et fait naître aussi des filières industrielles, fait améliorer les technologies, etc. Et en effet, le bâtisseur, le maçon, le maître maçon du roi est l'exemple même de ce progrès et de cette excellence.
Alors qu'on n'aille pas imaginer, j'en profite, ça c'est l'occasion ou jamais là, il y avait un très beau livre de Frédéric Thiberguin qui avait été écrit il y a longtemps sur le sujet, sur les chantiers de Louis XIV, qu'on n'aille pas imaginer une fourmilière d'esclaves que l'on fouetterait comme dans l'Égypte antique. Les ouvriers sélectionnés pour faire partie du chantier de Versailles sont des gens, si j'ose dire, en tenant compte évidemment de l'époque dont on parle, qui étaient des gens assez choyés en quelque sorte.
Oui, la vie a été dure, mais et au-delà de tout cela, il y a l'idée que pour tous ces gens-là, le château et le projet de Louis XIV est un Eldorado. C'est le moyen de s'accomplir, de réussir socialement, professionnellement, et peut-être même de s'enrichir. Mais le tout dignement. C'est vrai qu'on y vient pour... au fond, c'est un appel extraordinaire qui met en œuvre toutes les compétences, tous les métiers, et on se précipite aussi à Versailles pour y travailler. Alors évidemment, à côté du château, c'est ça qui est aussi assez extraordinaire à raconter, c'est la vie de cette ville qui commence
ville
à naître.
La ville qui est en train de naître, oui.
Ces milliers de gens qui arrivent, qui
on
s'organisent.
Commence, il faut dire, on commence par construire les hôtels particuliers d'un certain nombre des grands seigneurs qui très tôt perçoivent chez Louis XIV une forte prédilection pour ces lieux et qui se disent que ce serait pas mal d'avoir une maison tout près du soleil. Et puis petit à petit, autour de ces hôtels particuliers, sur l'axe des grandes perspectives dessinées par le nôtre, va sortir de terre une ville nouvelle.
Absolument, alors avec des cabarets, des tavernes, alors vous imaginez la joie de la description du romanesque, parce qu'évidemment il y a des personnages assez bigarrés, et il y a aussi les filles de joie, mais aussi les travailleurs, et tout cela constitue une ville qui prend naissance. Il y a les hôtels des Limousins, il y a les sans-aveux aussi, ces personnages qui étaient des sans-papiers, qui viennent et qui se précipitent vers le chantier du siècle.
Ce chantier du siècle qui ne cessera de prendre des dimensions. Il faut savoir que même au soir du règne de Louis XIV, alors que sont déjà bâties les grandes ailes des ministres et les immenses développements de l'aile du Midi et de l'aile du Nord, même vers la fin du règne, on est encore en train de construire une immense chapelle qui est la cinquième du château du reste.
Absolument, absolument. Versailles est un chantier qui est constamment en travaux. Alors parfois même on est obligé d'abandonner la montée d'un escalier pour passer par des petites coursives. En fait, on reçoit, on vit, on travaille. On s'aime à Versailles, mais dans cet immense chantier, puisque c'est une œuvre permanente.
Il ne faut quand même pas oublier que c'est un roman que vous avez écrit et qui est foisonnant. D'ailleurs, amour, argent, ambition, avez-vous écrit sur la couverture, ce sont finalement les ingrédients d'un immense chantier.
Oui, c'est ça. C'est une vie qui démarre pour ces milliers de gens et qui sont traversés par tous les sentiments humains. Ceux, bien sûr, de la réussite, aussi de l'échec, de l'amour, de l'espoir, de la joie et du malheur.
Vous me permettez de transcender les trois termes. Amour, on pourrait dire de l'art, argent, ça pourrait être le vif argent, la splendeur même des lieux. Quant à l'ambition, lorsqu'on parle de Versailles, on pourrait presque être taxé de redondance.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Mariage de l'hymen et de l'amour, extrait des Folies de Cardenio de Delalande sur Europe 1 France.
Un jour je serai roi, c'est le roman de Jean-Michel Rioux chez Flammarion, dans cette collection de romans historiques qui est dirigée par Thierry Billard, que nous saluons très chaleureusement. Un jour je serai roi, mais on pourrait presque dire un jour je serai bâtisseur. C'est ça la grande ambition finalement de ce roi, qui dira sur son lit de mort qu'il a trop aimé les femmes et les bâtiments.
Oui, en effet, il y a cette idée d'ailleurs qui est, comme vous le rappeliez très justement, Franck, tout à l'heure, est pas très bien comprise par Colbert au début, qui est effrayé par le projet de Louis XIV. Colbert, il voit plutôt le roi à Paris et au Louvre, et qui ne comprend pas finalement, fondamentalement et profondément le projet de Louis XIV. Alors oui, c'est un grand bâtisseur, c'est un aménageur, c'est quelqu'un qui va même concevoir des lois fiscales de manière à attirer les gens sur Versailles, et on peut dire que ça correspond probablement à la vision de ce grand roi roi qui a voulu marquer de son empreinte, de l'absolu de son pouvoir, à travers un lieu, encore une fois,
un
qui n'existait nulle part.
Dont on ne cessera de parler. Il n'est que de voir la liste des auteurs réunis par Adrien Goetz dans ce recueil de textes sur Versailles. Ça va de Casanova à Baudelaire, d'Arthur Jung, qu'on n'aurait pas attendu ici, je vous l'ai dit, à Karl Marx, d'Albert Samin, le grand poète versaillais, ou d'Henry James, là encore plus étonnant, à Paul Morand ou Roger Nimier. Oh, je ne résiste pas au plaisir de vous lire les quelques premières lignes de ce texte de Roger Nimier. C'était pour un bel album, hein, d'ailleurs.
C'était une préface.
Un livre,
Versailles que j'aime.
Merveilleux.
Et c'est
livre.
Un très beau texte de Nimier.
Oui. Bah, il y a toujours ce côté très styliste. D'ailleurs, les légendes du livre en question sont faites par Jacques Perret, qui est lui aussi un très grand styliste.
Oui.
Le palais de l'Ogre, écrit Roger Nimier, s'étend sur 800 hectares. Avec un os, Cuvier reconstituait un univers disparu. Ici, il nous reste une coquille désertée par ses habitants, grande salle déguisée de marbre et d'or, ambassadeur occidental dont le voyage a duré 3 siècles et qui nous apporte ses présents. Ambassadeur qui ne s'agenouille pas, qui ne se fait pas à nos mœurs, nous juge de petites conditions, se tait, respire, écoute. Merveilleux texte de Roger Nimier, ça c'est seulement le premier paragraphe et tout est de la même eau, c'est aussi beau. Vous vous êtes fait plaisir, on reconnaît la patte d'Adrien Goetz au caractère quasi humoristique d'une grande partie des textes sélectionnés dans ces pages.
Parce que les écrivains s'amusent quand ils vont à Versailles, c'est vrai. Il y a des pages émouvantes, il y a des textes où c'est la nostalgie qui prédomine, mais il y a aussi des textes assez drôles chez Nimier ou même... Aujourd'hui, quand Jérôme Garcin raconte l'arrivée de son ami Marta Basse, et c'est le cheval qui arrive et il dit « on n'eût pu croire le grand siècle revenu », ou bien ce texte avec lequel le livre se termine, qui est un texte de Marc Lambron et qui est très caustique, très sarcastique, où il décrit le vernissage de l'exposition Jeff Koons. Et alors là, c'est du vitriol pur lancé contre la nouvelle grille dorée dont il dit « elle fait très Dubaï ».
Elle fait très Dubaï.
Oui.
Beaucoup de monde, écrit-il, du gratin parisien, des galeristes, des Versaillais, bon ça jusque-là, une fois dans le salon d'Hercule, la première sculpture que l'on découvre installée en face du repas chez Simon de Véronèse est un chien géant, le Balloon Dog. Je me souviens que Pif le chien avait pour ami un chat nommé Hercule, mais ce ne sont pas les mêmes. Là, c'est une grosse bête bulbaire, faite de volumes ronds, un chien ballon dénué de toute pilosité. Les chiens sans poils se rencontrent chez Walt Disney et les poils sans chien sur les canapés des vieux manoirs normands. Jeff Koons, au château de Versailles, se situe entre les deux. On voit souvent de grands hommes promenés de petits chiens, c'est très royal canin, écrit-il.
Un bon écrivain, Marc Lambron. Moi, je ne partage pas forcément ce point de vue sur Jeff Koons, mais la description du vernissage est absolument géniale.
Merveille. Et puis alors, de grands écrivains versaillais quand même. Il ne faut pas oublier que Proust, évidemment, est venu 7 années consécutives s'installer. Enfin non, pas 7 années.
Il s'enferme.
3 années.
Il va à l'hôtel des réservoirs et il ferme ses volets.
C'est ça.
Et il y en a des échos dans La Prisonnière, où avec Albertine, il dialogue sur Versailles, mais c'est un Versailles qu'il va très peu voir. Il est à Versailles et en fait il va peu se promener. Mais Versailles à cette époque, avec Robert de Montesquieu, avec Albert Samin, avec
les frères Tarot,
est un sujet d'inspiration nostalgique. C'est de l'abandon de Versailles qui les inspire.
Sacha Guitry, évidemment, va immortaliser Versailles grâce à Si Versailles m'était compté.
Alors là, j'ai donné dans le livre le dialogue où Monsieur de Montespan explique qu'il lui arrive quelque chose et sa femme lui dit qu'on n'est pas cocu quand il s'agit du roi Louis XIV.
Et puis, il y a aussi les ennemis de Versailles, bien entendu, et au premier rang de tous, évidemment, Jules Michelet, qui n'a pas de mots assez durs pour stigmatiser ce qui, pour lui, est véritablement le palais du diable. Mais on est là tout à fait dans la cohérence de l'éthique qui était celle de Michelet au 19e siècle.
Mais déjà Montesquieu, j'ai une page de Montesquieu anti-Versailles. Je voulais que dans ce livre, il y ait les admirateurs, les rêveurs, mais aussi les opposants.
De Molière à Éric Orsenna, une anthologie présentée par Adrien Goetz, Versailles. Très joli sous-titre, Le Château Livre. Merci Adrien d'être venu. Merci Jean-Michel.
Merci,
Jean-Michel Rioux, Un jour je serai roi. Amour, argent, ambition, tous les rêves mènent à Versailles. C'est édité chez Flammarion. Et puisque j'ai une seconde, je salue Marc qui nous envoie un gentil message et son fils de 11 ans qui, figurez-vous, nous écoute tous les jours. Merci à tous les deux et à tous nos auditeurs. Bonjour Elena Morna.
Bonjour Franck, j'adorerais avoir un fils de 11 ans qui vous écoute tous les jours.
Ça le rendrait peut-être un peu plus intelligent que ce qu'il fait à cette heure.
On le salue. Bon, eh bien nous allons parler toujours des jeunes seniors. Hein. Nous sommes dans notre, notre thématique jusqu'à vendredi, jusqu'à demain.
Ah d'accord.
Et aujourd'hui, jeudi, jour de la santé.
Je dis ça pour nos amis, nous sommes de jeunes seniors, figurez-vous.
C'est à partir de 45 ans professionnellement.
À partir de 45 ans professionnellement, au niveau de la santé, c'est à 50 ans qu'on s'intéresse à capitaliser cette santé, à la préserver pour vous assurer allez, 20, 30 ans, 40 ans de bonheur. Allez, une seconde jeunesse, c'est sur Europe 1 avec les experts. 39,21 pour vos questions, 34 centimes d'euros la minute.
Chérie. Merci beaucoup Elena. À demain Julia.
À demain,
nous parlerons de Mikhail Gorbatchev.
Ah parfait, à demain sur Europe 1.
Franck Ferrand nous parle de son nouveau livre.
Vous aimez Au cœur de l'histoire sur Europe 1, alors ce message est pour vous. Parmi les grands récits de l'émission, j'ai choisi mes préférés et j'en ai fait un livre. Des pharaons aux cosmonautes, voici 30 aventures inoubliables des personnages hors du commun.
Avec en cadeau un CD de 4 histoires inédites. Au cœur de l'histoire, aux éditions Flammarion.